Bonsoir Aude Lavigne, bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la littérature. Ce soir, une dispute très spéciale, puisque c'est la dernière de la saison et que c'est la dernière pour Antoine Guillot à la Revue de Presse, mon fidèle camarade d'antenne depuis 10 ans, prenant en charge à la rentrée le magazine hebdomadaire consacré au cinéma sur France Culture. Précision, vous retrouverez Antoine dans nos disputes cinématographiques de façon très, très régulière. Mais pour cette dernière, nous avons eu aussi envie d'être nombreux dans ce studio, ce sont pas moins de 4 critiques. Sont avec nous ce soir. Littérature oblige, le vendredi dans la dispute, nous avons eu envie de vous conseiller des lectures pour cet été avec nous. Ce soir, donc, Elisabeth Franck-Dumas, Éric Leray, enfin réunis ces deux-là, Florent Georgesco et Philippe Chevillé. À notre sommaire, 4 livres, donc, on va essayer de faire rentrer tout ça dans le temps de l'émission. Souvenir d'un mariage de Louis Begley, édition Piranha, La lumière de ce que nous savons, de Zia Eider Rahman chez Christian Bourgois, Chronique des sentiments, livre 1 d'Alexander Klug chez POL, et Le géant enfoui de Kazuo Ishiguro chez Folio. Et puis en fin d'émission, quand même, le dernier jeu de la dispute de la saison qui vous permettra de gagner des DVD du spectacle mis en scène par Amos Gitai, La guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres, qui avait été présenté à Avignon en 2009 avec Jeanne Moreau et Eric Elmos Nino, un DVD distribué par Épicentre Film. Quand j'ai proposé à 4 critiques de choisir un livre pour l'été, sachant que leurs camarades devraient aussi les lire, je m'attendais à un bon esprit collectif. Grave erreur, chacun d'eux ou presque ayant choisi un pavé, mention spéciale pour Éric Leray, qui a choisi un livre de 1100 pages. Elisabeth Franck-Dumas, tout de même, choisi un grand format de 500 pages. Florent Georgesco, 464 pages en folio. Évidemment, le seul bon camarade ici, c'est Philippe Chevillé, dont on le savait déjà, un roman de 200 pages, ce qui est tout à fait raisonnable. Du coup, cela dit, ils n'ont pas pu tous lire tout. Alors, selon les livres, je débattrai avec certains d'entre eux. Autant commencer par le plus imposant, La chronique des sentiments, livre 1. On aura peut-être 5 minutes pour les 3 autres. Histoire de base, hein, il faut bien le préciser, d'Alexander Klug. Édition et traduction dirigée par Vincent Poval chez POL. Éric Leray, où aviez-vous donc la tête quand vous avez proposé cette lecture à vos camarades? Qu'est-ce que ce livre d'Alexander Klug, dont certains cinéphiles connaissent l'existence, je me tourne vers Antoine Guillot, dont la production littéraire très volumineuse n'avait jusqu'alors pas été beaucoup traduite en France? Je signale quand même que l'édition Théâtre Typographique avait beaucoup fait pour l'heure pour la découverte d'Alexander Klug, mais ce livre 1 de Chronique des sentiments, 1134 pages, devait être suivi de 4 ou 5 autres livres, volumes. Alors, tiens, pour en parler, je vois que vous avez coché la page d'avant-propos, ce qui est quand même pas idiot, parce qu'il faut, essayer d'expliquer tout le reste.
Presque.
C'est pas ce qu'il conseille d'ailleurs.
Non, je l'ai lu selon le mode d'emploi conseillé par l'auteur.
Alors, il faut expliquer le mieux possible de quoi est-ce qu'il s'agit, Eric.
Non, mais lecture de plage, effectivement, on se dit un gros livre pour être obligé d'en emporter qu'un seul, d'une certaine façon. Et celui-ci a un avantage. J'avais pensé d'abord ou après à la correspondance de Beckett, volume 2, par exemple, chez Gallimard, qui aurait pu être un sujet. Ça peut être un livre de plage, un livre où on picore. Et évidemment, chronique, comme le genre l'indique, c'est exactement ce qu'il est conseillé de faire. À la page 39, pour se soulager tout de suite, on lira l'avant-propos de l'auteur, Alexander Klug. Nul ne lira autant de pages d'un seul coup. Chacun se contentera d'aller y vérifier, comme dans un calendrier ou précisément une chronique, ce qui le regarde. Mmh. Alors, la table des matières, en effet, avec des titres aussi alléchants que Heidegger en Crimée, par exemple, lui-même subdivisé en une foultitude de micro-chapitres, ne se tenant pas tous les uns les autres, permet d'aller voir ce qui nous regarde. Et il faut préciser aussi, parce que j'ai bien cherché, je ne connaissais pas l'œuvre littéraire d'Alexander Klug, car Chronique des sentiments avait déjà été publiée en 2001, je crois, chez Gallimard. Ici, il s'agit d'une retraduction.
Et mais c'était le même volume ?
Alors non, c'était pas le même volume.
C'est une partie.
Pour une raison assez simple, qui est que, si j'ai bien compris, Alexander Klug réécrit et ajoute. Mmh. Donc c'est un Merzbau qui nous fait, c'est une construction infinie. Des chapitres, des morceaux, des fragments perpétuellement à son œuvre, si bien que
notamment pour cette édition française,
voilà,
d'ailleurs,
comme il le dit,
le livre est unique, même en allemand, il n'existe pas en allemand.
Parce que par exemple, Description de bataille, qui est son deuxième ouvrage, qui date de 1962, on nous dit qu'il y a plus qu'un quart en fait de l'original et que tout le reste a été entièrement refait. Alors, pour le résumer peut-être assez rapidement, on va comme le fait Vincent Pauval. On va peut-être le comparer au livre des passages de Benjamin, c'est-à-dire on va y trouver à la fois des sources littéraires, cinématographiques, un petit peu comme un écrivain, et ça je trouve que c'est un travail passionnant, enfin en tout cas moi qui m'intéresse de lire, un écrivain qui prend des notes pour une création à venir, et puis des éléments de fiction. Donc selon les livres, dont on ne peut pas vraiment dire que ce sont des livres, puisque en fait c'est une sorte d'œuvre géante, de magma où on ajoute des strates, on va avoir tantôt de très brèves nouvelles, en particulier dans toute la première partie, les coureurs de vie, leurs histoires de vie. Oui, j'essaie de ne pas faire trop de bruit.
Oui, ça fait un bruit horrible sur les micros, vous savez, Eric, ça fait 17 ans que vous faites de la radio, mais,
oui, mais j'ai pas le
un
bras
jour
long,
vous comprendrez
en fait, ça, c'est
que les micros sont sensibles.
Oui, mais vous savez que mes bras ne dépassent pas la latitude du micro, si bien que je ne peux pas tourner les feuilles au-delà de 5 cm devant moi.
Et le livre fait 5 kilos, tout.
Voilà, un kilo 5.
Les histoires de base aussi, en revanche, toute la deuxième partie, on va dire, Heidegger en Crimée, description de bataille, qu'est-ce qui sous-tend les actes volontaires, c'est autour de la bataille de Stalingrad, du nazisme, de la découverte des camps d'extermination, et pour le dire encore plus vite, peut-être que la question générale, c'est alors Chronique des sentiments, ça s'appelle. C'est une sorte d'étude de tout ce qui dans notre vie, lorsque nous avons des décisions à prendre, peut-être déterminant et déterminant. Alors évidemment, on pense à Fassbinder, au documentaire social allemand, et déterminant de façon navrante, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des passages épouvantables sur l'extermination d'enfants juifs dont on a fusillé les parents et deux officiers qui s'engueulent. Et alors je ne vais pas vous le relire parce que rien que pour trouver la page déjà. Et Klug qui fait remarquer que leur fond aristocratique, donc là il y a un déterminisme social, si l'on veut, se retrouvent même dans cette horrible discussion qu'ils ont. Et donc assez régulièrement, ces personnages qui sont observés de l'extérieur, en particulier dans les nouvelles au début qui sont la partie la plus réussie, eh bien on a l'impression que c'est un peu la nouvelle objectivité. Ou ce style un peu externe qui cherche à comprendre les motivations sans jamais pouvoir y atteindre en réalité, de ce qui fait nos actes quotidiens, donc les sentiments, ce qui est perçu. Il y a cette idée de qu'est-ce qui passe par nos nerfs, par notre perception, et qu'est-ce que ça donne, dans un style très anti-littéraire, comme le fait remarquer là encore l'excellent préfacier.
Et éditeur. De ce volume. Alors, regarde Elisabeth Franck Dumas sur ce.
Oui, alors, anti-littéraire, ou en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose de documentaire. Je crois que vous avez employé le mot de documentaire, c'est vrai. Mais il y a aussi énormément d'empathie, il y a énormément d'humour. Ça dépend des parties, mais je dirais que ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, tout fonctionne. Enfin, quand ça fonctionne parce qu'il y a une très habile mise en rapport d'éléments qui parfois, dont parfois le lien est évident et parfois l'est beaucoup moins. Mmh. Mais le sens provient justement du puzzle. Le sens vient de l'accumulation. Et c'est ça que je trouve assez remarquable, enfin même assez génial dans ce livre. C'est son projet, et c'est un projet qui ne cesse de répéter de manière un petit peu différente à chaque fois, mais de parler du collectif, de parler de ce besoin d'être ensemble qui revient, que ce soit quand on évoque les sauveteurs à Fukushima ou la bataille de Stalingrad, ou cette idée qu'il y a une âme universelle. Il y a même un passage où il parle de Pushkin et Kleist et où il parle de cette âme universelle qui n'est pas faite d'un seul esprit mais de milliards de fraternités entre des vivants et des morts. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est toutes les passerelles qu'il arrive à jeter entre des époques, des individus, des faits extrêmement différents. Tout ça avec un regard qui pourrait paraître froid et documentaire, mais qui est quand même assez souvent chargé d'une immense empathie. Il y a quelque chose, il y a une tentative de décrire ce que c'est que cette expérience collective d'être humain. C'est une expérience collective, il y a une responsabilité collective. Il y a un autre passage où il parle de Spinoza, où il aborde ce thème de responsabilité collective. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire. Et ce regard qui se pose de la même manière sur une mouche qui se noie dans un verre de Pernod au tout début du livre.
Qui ne se noie pas.
Ou qui ne se noie pas, justement.
Qui survit, elle.
Un petit peu de suspense.
Elle,
ou jusqu'au commandant, enfin je ne sais pas si son grade exact, c'est commandant Paulus pendant la bataille de Stalingrad. Voilà, c'est ça qui est assez jouissif, je trouve, dans le livre.
Philippe Chevillier, sur ces chroniques des sentiments d'Alexander Klug.
Alors moi, j'ai vraiment suivi l'avant-propos parce que j'en ai pas lu beaucoup pour l'instant, c'est-à-dire que les vacances ne font que commencer. mais alors, ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'au départ, moi, j'aime bien ce côté une histoire chaque soir philosophique, le fait de... Il y a un petit côté formel qui est assez excitant. Et dans un premier temps, aux premières lectures, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu... est-ce que je suis vraiment intéressé par tout? Et c'est en fait par strates. C'est-à-dire que quand on commence à en relire deux, trois, puis deux, trois autres, tout d'un coup, ça prend effectivement cette dimension très bizarre. D'ailleurs, parce que moi, j'ai pas réussi à lire suffisamment pour relier entre eux, c'est un peu ma frustration. C'est que je me dis, je suis pas allé assez loin pour. Mais cela dit, il y a vraiment des passages. Alors qu'ils m'ont. D'abord, il y a ce que vous disiez sur le non-style, peut-être. Mais il y a un humour, effectivement, une acidité derrière ou une ouverture, des ambiguïtés qui sont assez formidables dans certaines petites nouvelles ou dans des petits textes très courts. J'ai beaucoup aimé aussi les petits dessins illustrés, les faits divers illustrés que je trouve qui ont une force assez incroyable. Et puis c'est vrai que ce qui m'a le plus parlé, c'est toute la partie sur les camps d'extermination, la Shoah. C'est vrai que c'est de façon sans aucun pathos, mais ne serait-ce que moi, ce qui m'a frappé, c'est cette histoire des architectes où on retrouve donc des architectes qu'on envoie en fait. Il faut qu'ils donnent leur avis sur le champ d'exécution, puisque ça fait partie de l'architecture, de savoir comment on va charrier ensuite les morts, on va les mettre et tout. C'est des passages qui sont extrêmement douloureux et qui nous ramènent donc finalement à un passé de l'Allemagne. Et puis on voit qu'il y a évidemment ça dans tout le livre, la volonté de ne pas oublier toute cette histoire allemande, que ça soit littéraire, que ça soit, et puis de tendre ensuite vers l'universel. Et puis peut-être la dernière chose, il y a vraiment des petites nouvelles qui m'ont, celle par exemple de la grossesse de Blücher, le commandant-chef des armées prussiennes face à Napoléon, je trouve ça assez génial, où il fait des grossesses nerveuses et on ne sait pas si c'est une femme ou pas, il n'arrête pas de dire je suis enceinte, il a été violé par un soldat français, on ne sait pas où on est, et c'est vrai que c'est, voilà, il y a des moments quand même de vraie dégustation, de grands moments de plaisir, donc voilà, il faut le lire, je pense, un peu plus que picorer, en lire au moins, à mon avis, les trois quarts pour que ça fonctionne vraiment.
Que ça agisse à plein, mais vous avez évoqué les dessins, grande part d'iconographie qui, là aussi, peut paraître parfois très mystérieuse, mais là aussi, des relations se tissent, se forment. Moi, j'en ai pas lu certainement encore assez, mais par contre, j'ai envie de l'emporter dans ma valise.
Cela dit, je ne suis pas sûr que plus on le lise, plus on voit se tisser des liens. Je pense que c'est l'inverse qui se passe et que c'est ce qui rend le livre souvent passionnant. Eric parlait pour le style, de quelque chose d'antilittéraire. Il y a quelque chose d'antilittéraire dans le geste entier de Klug qui, au fond, me paraît, à travers l'existence même de ce livre qui, en quelque sorte, annule une œuvre littéraire entière ou la concentre.
Oui, moi je pense que c'est...
Cet auteur est l'auteur
potentiel littéraire, oui.
De son livre, mais il ne les fait apparaître qu'in fine, quasiment. C'est un vieil homme qui rassemble en ce moment...
Oui, il est toujours vivant, Alexander Klug, il est né en 1936, me semble-t-il. 32, oui, 32, donc il a plus de 84 ans, donc maintenant.
Mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que Kluge est un disciple et un ami d'Adorno. Ce qui traverse tout... Je vois un peu ce livre comme des travaux pratiques de la fameuse phrase d'Adorno sur l'impossibilité... Enfin, sur la phrase exacte, on la cite souvent mal, c'est « Écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare », disait Adorno.
Et la phrase n'est pas finie.
Dans les années 50. Surtout, la pensée d'Adorno n'est pas finie là-dedans. Et il s'est beaucoup expliqué, on l'a toujours très mal comprise. Il a en réalité expliqué qu'il désignait une aporie, qu'il voulait faire jouer ensemble deux impossibilités ou deux possibilités, qu'il ne s'agissait en rien d'une injonction, etc., etc. La preuve, c'est que ce disciple d'Adorno, qui est Kluge, fait ce livre entier, fait une œuvre, construit une œuvre absolument considérable, portée par l'énergie même d'une phrase comme celle d'Adorno. C'est-à-dire portée par la pensée de la destruction des arts que la Shoah a produite.
Mais citation pour citation, j'ai lu dans un entretien très récent pour la sortie de ce livre qu'Alexandre Kluge dit « Je suis le poète de la théorie critique ».
Exactement.
C'est assez génial. Tout est dit.
De l'école de Francfort, dont Adorno était un représentant. C'est les travaux pratiques de la théorie critique, absolument. Je vous rejoins tous d'ailleurs pour dire que il y a un charme, une force très grande dans certaines de ces courtes nouvelles, dans les il y a beaucoup de choses amorcées. Je crois qu'il ne fait que les amorcer, et très volontairement, et que c'est fait pour être cassé, et c'est cette destruction qui compte. Je pense à un de ces courts textes vers la fin, sur cet enfant, ce jeune enfant qui va se baigner, qui descend l'échelle de fer, et qui passe à 1 millimètre du barreau de fer, lequel l'aurait tué, dit Kluge. Et cet enfant, qui va ensuite joyeusement nager et qui y retourne autant qu'il le désire, ne sait pas qu'il est un survivant. Et il y a quelque chose de ce qu'il y a d'essentiel dans la démarche de Kluge, qui racontait, je finis peut-être juste par ça, ailleurs, parce que non content de ces 1000 pages, je suis allé voir d'autres textes de Kluge. Dans un entretien, il racontait sa guerre. Il était enfant quand sa ville était bombardé, et il raconte le sentiment de protection absolue qu'il ressentait, à quel point ces bombardements pour lui, jeune enfant, ne pouvaient pas être un danger, à quel point il avait une confiance absolue dans la vie, et il montre très bien qu'il aura fallu devenir adulte pour savoir qu'il aurait pu mourir et que le hasard seul l'avait sauvé, alors que lui, enfant, pensait à ses leçons de piano et à autres histoires enfantines, et toute la théorie qu'exprime, que travaille concrètement ce livre, c'est cette différence entre ce qu'il appelle le temps subjectif, le paysage sentimental, et la réalité objective, qui n'est que destruction, et dont on sait qu'elle peut être destruction absolue depuis Auschwitz. Et c'est là qu'il rejoint totalement Adorno. L'intériorité est toujours fragmentée dans ces livres, dans ce livre, parce qu'elle est devenue impossible. Enfin, ça semble démontrer ça en permanence, par l'usure même du récit qui est impossible dans ce livre.
Bon, il aurait fallu faire toute l'émission, Éric Loret, sur ce choix. On peut revenir à la rentrée. Vous avez droit à 30 secondes, Éric Loret.
Il dit aussi dans un entretien qu'il écrit comme il filme, d'une certaine façon, ce qui explique ce montage parataxique. Et vous pouvez voir en ligne, gratuitement, piraté, Vermischten nach Richten, Nouvelle Mêlée, 1986. Et là, vous comprendrez un peu comment il écrit, en fait, par l'image. Ça vous évitera, si vous voulez, de lire les 1100 pages. Ça ne dure que 2 heures. Et ça ressemble, disons, un peu à un film de Chris Marker. Si
Adorno, ayant voulu le détourner de la littérature et l'envoyer faire du cinéma, assistant de Fritz Lang, et il dit qu'il a fait il a écrit ses livres en faisant des films, et il fait ses films en écrivant des livres,
ce qui est extrêmement... Einstein, ça ressemble vraiment logique à Chronique des sentiments, en fait.
Chronique des sentiments. Livre 1 d'Alexander Kluge, direction de Vincent Pauval chez POL.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de « À la lumière de ce que nous savons » de Zia Eder Hamann et du « Jeu enfoui » de Kazuo Ishiguro. Nous poursuivons tout d'abord cette dispute avec l'écrivain américain d'origine polonaise, Louis Begley, qui publie « Souvenir d'un mariage » édition Piranha, traduction d'Edith Sonkint. Son premier roman, une éducation polonaise, avait reçu, on s'en souvient, le prix Médicis étranger en 1992.
Now you're floating, so you got to
J'écouterai bien plus de Mary J. Blige, mais ce soir, vraiment, le timing est beaucoup trop serré. Philippe Chevillé, c'est vous qui avez proposé ce livre de Louis Béglé à notre sommaire. C'est donc vous qui commencez.
Alors d'abord, ce livre, j'aime beaucoup cette sorte de faux départ, puisqu'on a un narrateur vieillissant, écrivain, qui se retrouve au New York City Ballet, qui commence à nous parler de Jerry Robbins, de sa femme qui a disparu, des souvenirs qui le consolent, de ses beaux souvenirs. Il a perdu sa petite fille aussi. On pense souvenir d'un mariage, que ça va être un peu son histoire, avant tout. Et tout d'un coup arrive un personnage, une espèce de bourrasque.
Un personnage, oui.
Un vent mauvais, qui arrive comme ça, Lucie de Bourg, qui est donc une aristocrate, enfin en tout cas une grande famille de Rhode Island, une héritière d'une grande famille de Rhode Island, et qui tout de suite va un peu l'alpaguer et qui va lui raconter un petit peu toute l'amertume qu'elle ressent du mariage qu'elle a raté avec un financier qui était au départ un garagiste d'un milieu modeste, donc ils ont divorcé, il est mort, et elle a encore cette haine pour cet homme, et lui ne comprend pas l'écrivain. Il va essayer de retrouver pourquoi, parce que dans ses beaux souvenirs il y a aussi cette Lucie qui est une femme vive qu'il a rencontrée à Paris après la guerre, et il comprend pas comment elle peut être aussi haineuse par rapport à ce mariage. Bon, ça, je raconte ça un peu comme un arlequin, mais c'est pas comme ça en fait. En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir dans ce livre comment on part donc d'un roman presque un côté Fitzgeraldien et tout ça au départ, et puis tout d'un coup comment il y a une espèce de violence et de méchanceté qui se glisse dans le livre, comment ce personnage de Lucie de Bourg exprime une souffrance, et comment finalement il peut y avoir tous les personnages comme ça peuvent être une énigme, et donc notre romancier va devenir un détective ou un journaliste, c'est-à-dire qu'il va faire une enquête sur elle, il va d'abord aller l'écouter, il se dit que c'est une bonne matière pour un roman, puis il va aller écouter les protagonistes, la deuxième femme de son ex-mari,
le fils,
enfin tout le monde va y passer, peu à peu l'histoire va se déplacer, va se décaler, on va comprendre qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges, et dans cette histoire que je trouve toujours porté par de la crudité, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de violence, il y a toujours une espèce de style extrêmement élégant, et en même temps donc on a à la fois cette espèce de d'humanité des personnages qui ressort malgré tout, cette attaque quand même sur la upper class, parce que c'est quand même un portrait, on voit bien que derrière un amour mal assorti qui est quand même le sujet principal du livre, c'est un amour mal assorti, il y a quand même les différences de classe, la morgue de classe qui est derrière tout ça, et à la fin on a cette impression donc d'un roman qui est finalement une espèce de classique que je trouve très beau, un beau portrait comme ça de femme et d'une communauté, et c'est un roman crépusculaire d'une certaine façon, parce qu'il reste toujours cet homme vieillissant, mais c'est pas un roman mortifère, il y a quelque chose de beau là-dedans aussi.
Florent Largesco, oui, sur Louis Béglé.
Il y a d'autant plus quelque chose de beau que, en réalité, c'est aussi quand même les souvenirs d'un mariage, sont aussi les souvenirs de oui, son mariage. Mmh. Et en effet, le début est trompeur. Il y a une sorte de fil qui traverse tout le livre, qui est très discret, mais qui est l'histoire de son propre mariage, qui est un mariage absolument heureux, c'est-à-dire le contrepoint parfait de celui qu'il raconte plus, celui de Lucie de Bourg. Enfin, parfaitement heureux, sauf que sa femme est morte. En réalité, c'est aussi un livre de deuil, et tout se passe comme si dans la vie du narrateur, le moment était venu de s'intéresser aux horreurs de l'amour, aux malheurs des autres, parce que lui-même est plongé dans ce deuil-là. C'est un livre, j'ai découvert grâce à vous, merci ce Louis Béglé, avec vraiment une grande joie, parce que c'est un comble de classicisme, mais d'une richesse, d'une souplesse dans le récit, d'une capacité à mêler tous les plans, à amener tout le monde où il veut avec une ironie. Enfin, c'est le classicisme tel qu'il peut encore apporter quelque chose à la littérature, de vitalité, de profondeur du regard d'ailleurs.
Regarde-nous un peu humain, parce que je sens qu'on a certains désaccords du côté Elisabeth Franck Dumas qui vous écoute.
On va en parler ensemble,
mais je vous laisse.
Non, en vous écoutant, j'ai l'impression d'être passé à côté du livre. Mais allez-y, Florent, je ne veux pas vous interrompre.
Non, mais c'est moi qui interromps.
Je vais le résumer en un mot.
Allez, en un mot.
En un mot, qui est le mot de charme. Il y a aussi dans le...
Non, toujours pas. Visiblement
je
pas.
Je ne dis pas ça pour vous convaincre, mais au contraire pour discuter. Il y a un charme extraordinaire à ce livre qui sait décrire la vie humaine d'une manière qui paraît entièrement neuve, quand bien même chacun des éléments qui composent le livre est connu, voire conventionnel.
Pas charmé, Elisabeth Franck-Dumas.
Non, j'ai le sentiment, en vous écoutant, d'être totalement passé à côté de ce livre. Moi, j'ai vraiment eu du mal à m'intéresser au destin de ces personnages que je trouve finalement assez mal incarnés. J'ai l'impression de voir des pantins recouverts de marques. Alors là, les marques, ce ne sont pas des marques de vêtements, c'est Harvard, c'est des banques, c'est des cabinets d'avocats. Il y a du name-dropping qui parcourt absolument tout ce livre et qui est posé là, contrairement à chez Fitzgerald, pas pour justement montrer quelque chose d'une dynamique, d'un mécanisme de classe ou de sentiment. Il n'y a aucun mystère. Je trouve que les choses sont posées à plat. On nous explique et on nous prémâche absolument tout ce que veulent dire. Ce que toutes ces choses veulent dire sans la possibilité pour le lecteur d'investir ça d'une quelconque imagination, d'un quelconque mystère, comme si toutes ces choses étaient intéressantes en elles-mêmes. Au bout d'un moment, moi, je m'en fiche de savoir où tous ces gens sont allés à l'école, les études qu'ils ont faites. On aura l'occasion d'en reparler avec l'autre livre. Il y a certains thèmes très similaires et je trouve que c'est pas du tout traité de la même manière. Et comme si ces choses étaient intéressantes en toi, c'est un livre extrêmement matérialiste. Alors on pourrait dire que c'est une critique du matérialisme, mais je ne trouve absolument pas, en fait, puisque le personnage, même s'il a un petit mea culpa vers la fin du livre, le narrateur, en se disant mais au fond ne suis-je pas un épouvantable snob, moi aussi, mais en fait non, il donne une importance à toutes ces choses extrêmement matérielles qui, moi, me dépassent totalement. Je n'y vois pas l'intérêt, et en plus je trouve le projet misogyne, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à cette femme. Alors, c'est dit plusieurs fois, il veut savoir pourquoi cette fille qui était si jolie et sympathique est devenue une mégère, en gros une mégère en colère. Et enfin, vraiment, je trouve ça incroyable. Et le seul personnage féminin qu'il trouve grâce à ses yeux, elle est morte depuis longtemps, elle n'est pas dans le livre, c'est bien. Elle fait pas d'ombre, et en même temps, elle ne fait que de l'ombre à tout le monde. Et donc, moi, il y a un présupposé snob dans ce livre qui part du principe que tout ça, toute cette comédie sociale va nous intéresser à cause de cette avalanche de marqueurs qui me dépasse totalement.
Florent Georgesco, courte réponse.
Ah non.
Ah si, ah, si.
C'est tout à fait impossible.
Si, on parle pas du Chigourou comme vous voulez.
Bon, on en est au chantage.
Non, on en est là, au principe de réalité.
Ah oui, c'est ça. Donc en deux mots, je suis en total désaccord avec ce que dit Elisabeth sur deux points, disons, au moins, pour synthétiser. D'abord, sur le prémâché, le roman est entièrement, Philippe en a parlé, je n'en ai pas eu le temps moi, mais je pense exactement la même chose. Toute la construction est fondée sur l'énigme et sur, en réalité, la variabilité de la connaissance qu'on a de la vie des gens. Sur l'impossibilité, à la fin, elle est tout à fait établie, de comprendre quoi que ce soit aux raisons et aux comportements réels des gens. Donc, premier point, c'est toute la structure du livre qui me paraît aller dans le sens contraire. Deuxième point, je ne trouve pas que la question sociale ait autant d'importance dans le livre. Je ne crois pas du tout qu'il propose au lecteur la très haute aristocratie américaine qu'il décrit comme objet de fascination. Je ne crois pas que ce soit le sujet. Je pense que c'est vraiment à côté. Il se trouve que ces gens vivent dans ce monde-là. En réalité, si on avait raconté l'histoire de la famille du mari et de Thomas, c'est-à-dire l'histoire de ces garagistes, il aurait pu y trouver exactement les mêmes ressorts humains, exactement les mêmes comportements. Il n'y a rien qui ne puisse être... il n'y a rien qui échappe au bout du compte à l'universalité, et au contraire, justement, il nettoie tout le monde de l'ensemble de ses attributs sociaux pour arriver à quelque chose de l'essence même d'un comportement humain, à quelque chose d'invariable.
C'est la version deux mots de Florent Georgesco, mais que j'interromps d'autant plus.
C'est deux mots par rapport à tout ce que j'aurais voulu dire.
Moi, du coup, un mot. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas pris de la même façon, parce que je pense que, comme vous disiez, c'est assez secondaire. Mais à chaque fois, et alors là j'ai pas d'exemple, mais à chaque fois qu'est abordé justement le côté classe sociale, upper class, que sont décrits justement les mariages et tout ça, c'est assassin. Il y a deux ou trois phrases assassines quand tu nous montres les gens qui golfent, qui ont leur bateau et tout ça. C'est pas du tout moi je trouve que c'est un livre qui est plutôt socialement une vraie critique sociale en deuxième rideau. En premier rideau, c'est effectivement cet amour mal assorti et le fait que des personnages sont pas ce qu'on pouvait penser être dans une langue effectivement très classique et un peu pastichant le classicisme. C'est là que je trouve que ça a une force, parce que ça nous emmène ailleurs que ce qu'on imaginait.
Oui. Louis Béglé,
On peut dire que je suis d'accord avec Philippe.
Vous pouvez dire ça. Et Elisabeth, non. Souvenir d'un mariage, c'est aux éditions Piranha. C'est dans une traduction d'Edith Sunkind. À notre sommaire de cette dispute doublement spéciale, la dernière de la saison d'une part avec les conseils de lecture pour l'été, il nous reste à la lumière de ce que nous savons de Zia Eider Rahman et le géant enfoui de Kazuo Ishiguro, mais doublement spécial puisque pour l'heure, profitez-en. C'est la toute dernière revue de presse culturelle de la dispute par Antoine Guillot, puisque la rentrée, je le rappelle, vous retrouverez Antoine tous les samedis aux commandes du nouveau magazine cinéma de France Culture. Combien de fois je dis bonsoir, cher Antoine ? Beaucoup.
Beaucoup de fois.
Moi, je le redirai autrement.
Très ému de vous dire pour la dernière fois bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Supposons, sait-on jamais, que vous soyez New-Yorkais, riche et trop débordé pour avoir le temps de lire, sans parler d'acheter des livres. L'institution qu'est la librairie Strand a la solution pour vous, comme le raconte Nicolas Madeleine dans Les Échos. Flann O'Brien, un chroniqueur de l'Irish Times, avait inventé déjà un service de manipulation de livres pour les propriétaires de bibliothèques n'ayant pas le temps de lire. Pour une somme modique, réduite de 5% pour les fonctionnaires, il proposait de maltraiter un livre, d'en écorner 4 pages et d'y insérer un ticket de tramway de sorte qu'on croit qu'il avait été lu. Contre un supplément, il ajoutait même des annotations du genre « mouais » ou « oui, mais CF Homer, chant 3, 151e vers », etc. La librairie new-yorkaise Strand, la plus prestigieuse de New York et la plus grande avec ses 18 miles de livres, soit 29 kilomètres de rayonnage sur Union Square, ne va pas encore aussi loin, mais pour survivre, alors que disparaissent une à une les librairies de la ville, elle a imaginé une diversification baptisée Livre au Maître, Books by the Foot en anglais, pour les bibliophiles à qui le rythme de vie à Manhattan interdit d'aller flâner dans les librairies. L'idée est venue il y a une dizaine d'années à Nancy Bass Wyden, l'héritière de cette institution, née en 1928, lorsqu'elle remarqua que des décorateurs d'intérieur venaient acheter des livres par carton entier pour leurs clients. Elle comprit alors que Strand pouvait proposer de directement remplir les étagères et tables basses de ses clients selon leur bon plaisir. Vous voulez par exemple des livres sur le thème de l'océan ou de la voile pour votre maison dans les Hamptons au bord de la mer, Strand peut même s'arranger pour que leur couverture respecte un code couleur qui va bien avec celui du canapé. Ou bien ce sont tous les Pulitzer ou auteurs nobelisés que vous voulez voir alignés à côté de votre cheminée, Strand peut vous les proposer signés par l'auteur ou en édition originale. La société recherchera aussi pour vous de vieux traités de mathématiques reliés cuir. Et si vous n'habitez pas trop loin, une équipe de Strand viendra installer tous ces livres chez vous dans le bon ordre. Le service en lui-même n'est pas facturé. La librairie se rémunère sur les livres vendus. Pourtant, Aya Sato, la responsable de ce département, prend son rôle à cœur. Je m'appuie souvent sur les employés de la librairie qui sont très souvent de grands lecteurs ou je fais des recherches moi-même, explique-t-elle. Il n'est pas rare qu'on lui demande plus de 5000 livres, soit 400 pieds, plus de 100 mètres, calcule-t-elle. Amoureuse de son métier, car les acheteurs révèlent beaucoup d'eux, Aya Sato insiste sur le fait qu'elle n'a pas affaire qu'à des traders incultes qui voudraient une belle édition de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » de Harper Lee pour en jeter. « Nos clients sont des amoureux des livres », dit-elle. Un garçon lui a demandé 50 romans policiers à offrir pour Noël à sa fiancée, une association caritative des livres utiles pour des familles délogées, etc. La mission qu'Aya a préférée a été de trouver les livres qui inciteraient un garçon de 9 ans à aimer la lecture, ce qui peut être très rentable en termes de maître, puisque contrairement aux idées reçues, ce qui incite les jeunes lecteurs à lire, ce n'est pas le joli petit livre écrit en gros caractères avec beaucoup d'images, mais le bon gros pavé dont l'épaisseur, n'est-ce pas Éric Lauré, est même devenu gage de qualité, comme l'explique Renaud Baronian dans Le Parisien. Quand j'ai débuté dans le métier, les livres jeunesse ne devait pas être trop compliqué et surtout ne pas faire plus de 150 pages. Puis J.K. Rowling et ses Harry Potter sont arrivés à la fin des années 1990 et tout a basculé. Thierry Laroche, responsable éditorial chez Gallimard Jeunesse, sait de quoi il parle. Sa maison d'édition publie la saga du petit magicien à lunettes, mais aussi Toby Lolness, 672 pages pour l'édition anniversaire de l'intégrale de cette saga écolo à succès, ou des auteurs français comme Christophe Maury, Mathieu Hidalf et Christelle Dabos, la passe-mi.
miroir, adepte des plus de 500 pages, J.K. Rowling a montré que ce qui compte vraiment pour les jeunes lecteurs, c'est l'art de la narration, pas le nombre de pages, poursuit Thierry Laroche. Même constat du côté des auteurs. Sophie Audouin, Mamie Cognon, plus grande vendeuse auprès des jeunes, 100 000 exemplaires par volume de la saga Tara Duncan chez XO Éditions, se souvient avoir essuyé de nombreux refus d'éditeurs avant la publication du premier tome de Tara en 2003 parce que c'était trop long. Heureusement, Harry Potter leur a fait comprendre le goût des jeunes lecteurs pour la magie et les romans épais. Que ce soit Tara Duncan, Oxa Pollock, Dan Plichotta et Sandrine Wolfe, toujours chez XO, Mathieu Hidalgo ou Toby Lolness, ces sagas mettent en scène des univers fantasmagoriques et de nombreux personnages qui conduisent les auteurs à allonger le récit. Quand vous décrivez des mondes fantastiques avec plusieurs lignées de héros, vous avez besoin de développer, ajoute Sophie Audouin, Mamie Cognon. Les jeunes lecteurs aiment s'y plonger, c'est presque addictif. Dans leurs lettres, certains me demandent même d'écrire plus long. Ce besoin d'immersion est un élément essentiel aux yeux de Glenn Tavenec, éditeur chez Robert Laffont, qui publie des séries comme la fameuse cinquième vague de l'américain Rick Yancey. Aujourd'hui, les 12-15 ans cherchent à être happés et veulent se perdre dans des univers. D'un côté, ils affectionnent le feuilleton, la lecture par petits bouts sur Internet et sur les tablettes. D'un autre, quand ils se plongent dans un livre papier, ils aiment la qualité, l'épaisseur. Glenn Tavenec a également repéré un autre phénomène. Les jeunes lecteurs détestent les livres de poche. Pour eux, l'ouvrage doit être gros et beau, avec la garantie que pour 20 euros, ils vont y passer du temps. D'où notamment le succès des intégrales que les 11-15 ans peuvent s'offrir, même s'ils ont déjà lu les volumes en question. Les jeunes assimilent les livres de poche à la lecture contrainte imposée par l'école, renchérit Thierry Laroche, alors que l'objet livre est synonyme de lecture plaisir, une aubaine pour les auteurs, les éditeurs et les libraires, un peu moins pour les critiques.
Sortie de Britney Spears et d'Antoine Guillot. Merci pour ces 5 saisons de revue de presse culturelle, toujours très riches. Pour la rentrée, on ramènera des cartons de livres, peut-être pour la dispute. On se disputera autour de 4 cartons, ça pourrait être une riche idée. Allez, on poursuit sans plus attendre cette dispute littéraire spéciale conseil pour l'été avec le choix de Florent Georgesco. Alors il va falloir faire vite, parce que vous nous avez arnaqué, Florent, le géant enfoui, on en a parlé déjà dans la dispute l'an dernier, au moment où il est sorti dans son édition normale. Il est maintenant disponible en poche chez Folio, dans une traduction donc d'Dan Rabinovitch, l'écrivain britannique connu notamment pour Les Vestiges du Jour, Booker Prize, adapté au cinéma par James Ivory. 10 ans après son roman précédent, il publiait donc Auprès de moi toujours, Ishiguro nous invite à découvrir la Grande-Bretagne après le départ des Romains, dans une île christianisée mais encore régie par les clans. Le contexte est très flou puisqu'on est dans une période de l'histoire de l'Angleterre où pendant 150 ans environ, on n'a aucune trace écrite de ce qui a pu se passer. Donc du coup, un romancier peut s'y engouffrer. Il ne manque pas de le faire. On va suivre Axel et Béatrice, deux héros, on va dire, qui vivent dans la brume et qui vont essayer de la traverser pour retrouver leur fils parti il y a bien longtemps, mais quand, pourquoi, vers où? Beaucoup de questions se posent dans ce livre. Les habitants de l'île, en plus, ont perdu la mémoire, ce qui était quand même assez gênant, pour mener une enquête. Florent Georgesco, en deux mots.
Il était bon de célébrer l'apparition en poche de ce
grand livre. Mais absolument, c'est très bien.
Il est vrai que j'en ai déjà parlé ici, mais il y a, parmi les bizarreries qu'il y a toujours dans l'histoire littéraire immédiate, il y a le fait qu'en France, nous ne sommes peut-être pas suffisamment conscients que Ishiguro est un immense écrivain, donc je ne perds jamais une occasion de le rappeler, parce que nous ne le savons pas assez. Et malheureusement, on l'a beaucoup vu à l'apparition de ce livre-ci. C'est pourquoi aussi j'y reviens. Il a été insuffisamment salué, à mon avis. Et donc, voilà, j'enfonce le clou rapidement pour dire que de toute façon, tous les livres d'Ishiguro sont en poche. Donc si celui-ci ne tente pas nos auditeurs, lire n'importe lequel de ces livres sur la plage est une merveilleuse idée. Quant à celui-ci, en effet, vous le disiez, on est dans ce qu'on appelle le Dark Age de l'histoire d'Angleterre. En gros, on est vers la moitié du 6e siècle si on se réfère à la légende arthurienne. C'est l'histoire de deux vieilles personnes qui partent à l'aventure sans savoir pourquoi. En effet, l'amnésie a gagné tout le monde. La brume recouvre toutes ces terres qui effacent à mesure la mémoire de chacun. Et on est en apparence dans une épopée du type
quasiment fantasy vu les ogres, les elfes et les lutins qui la peuplent. Mais on est en réalité tout à fait à rebours de ce qu'est un livre d'aventure, puisque ce ne sont pas des gens déterminés par ce qu'ils, par leur histoire à partir à l'aventure ou à la quête, en quête de quoi que ce soit. Ce sont des gens qui vont partir à la recherche de leur histoire grâce à l'aventure et grâce à la, à cette avancée au milieu de la brume. Ils ont gardé quelques souvenirs, quelques images, dont l'image d'un fils, et ils savent, sans savoir pourquoi, qu'ils doivent retrouver ce fils. Et c'est ainsi qu'ils se mettent en marche, tous les deux. Au passage, ils rencontreront un guerrier saxon, alors qu'eux sont bretons. Ce guerrier les accompagnera longtemps. Ils ne sauront pas pourquoi. À aucun moment, personne ne saura ou ne semblera savoir pourquoi on marche. Et pourtant, cette marche sera, à mesure que le livre avance, de plus en plus déterminante, non seulement pour l'histoire des personnages, mais pour l'histoire du monde. Et car nous sommes à la fin, ou au milieu plutôt, du conflit qui est historique, lui, entre les Bretons et les Saxons. À ce moment de l'histoire, il semble que les Bretons aient massacré les Saxons. On sait qu'à l'issue du Dark Age, les Saxons l'ont emporté. Les historiens font l'hypothèse qu'il y a eu entre-temps un génocide. Et ce génocide, a sans doute été motivé par la vengeance des premiers massacres des Saxons par les Bretons. Et Figaro raconte qu'il a voulu écrire ce livre en pensant à ce qui s'est passé au Rwanda, en pensant à ce qui s'est passé en Yougoslavie, c'est-à-dire comment, artificiellement ou non, on peut penser artificiellement souvent au Rwanda en particulier, comment la vengeance, la mémoire a créé le génocide. L'enjeu du livre sera de savoir si retrouver sa vie est un enjeu aussi important que de préserver la paix ou pas. Et peut-être tout le monde aspire-t-il à retrouver son histoire, à faire se lever cette brume magique qui efface les mémoires. Mais quand les mémoires seront effacées, la guerre viendra, le massacre viendra, toutes les haines reviendront. Axel lui-même, on l'apprend par bribes, semble avoir été en réalité beaucoup plus important dans l'histoire des massacres qu'il ne le sait. Et peut-être cet Axel guerrier va-t-il renaître lui aussi, à moins qu'il ne soit trop tard. Et en réalité, à travers toute cette immensité historique que rassemble Ishiguro, en réalité, Axel est d'abord un vieil homme qui marche avec sa femme, et la réalité du livre est peut-être plus, une fois dépassée toute l'angoisse historique, dans ce qu'il reste à travers l'histoire des destins humains et dans la particularité de la vie individuelle. Et au fond, il y a une phrase vers la fin du livre qui dit tout le livre, qui est la plus simple du monde, qui est « Adieu, mon unique amour ». Et peut-être que cet adieu-là, qui renvoie toute l'histoire, qui concentre toute l'histoire, qui attire toute l'histoire dans la vie individuelle, et le sens profond du livre.
Éric Loret, sur le géant enfoué de Kazuo Ishiguro.
Je crois que Florent Georgescu a à peu près tout dit. Moi, je ne suis pas fanatique d'Heroic Fantasy.
C'est une bonne raison de lire ce livre.
Exactement, parce que ça n'en est pas. Et de fait, les brumes m'ont parfois un peu embrumé, mais j'étais très sensible, excusez-moi, c'est un cliché, à la question de la mémoire. Il y a des thèses entières qui sont écrites sur le thème de la mémoire chez Ishiguro, c'est-à-dire le rapport avec le deuil et, comme vous l'avez dit, avec l'histoire, puisque comme il s'en est en effet expliqué, c'est la question des faux souvenirs, les souvenirs écrans, d'une certaine façon, qu'on fait naître chez certains peuples pour les mener à la guerre, de souvenirs qu'on efface. Donc toute cette partie, il m'a semblé que si on n'était pas au courant finalement, ou si on percevait pas immédiatement ce rapport, en particulier avec le Rwanda, entre autres, ça perdait beaucoup de son intérêt. Mais alors, il y a aussi la mémoire intime qui est un élément qui m'a beaucoup touché. Moi, je dirais que ce livre est une sorte de charnier du couple, car ils passent leur temps à trébucher sur des cadavres. Il y a une scène de tunnel absolument extraordinaire, belle comme Péléas et Mélisande sous la lune, où à un moment Béatrice dit on a marché sur quelque chose, on a marché sur un enfant mort, c'est sûr. Et comme ils n'ont pas de bougie, ils ont de l'amadou, c'est le moment de se rappeler que ça sert à faire des bougies, que c'est du suif. La bougie est éteinte, ils ne peuvent donc pas vérifier. Ouais. Axel
c'est,
lui dit...
C'est Pédéas plus les aveugles. Hein,
c'est ça, c'est à peu près. Oui, non, c'est très bien, c'est parfait. Non, mais c'est surtout la façon de s'exprimer. C'est un peu qui vous a fait du mal, tous. Bien entendu, comme Mélisande. C'est-à-dire qu'on n'y comprend rien, on est dans la brume. D'où venez-vous? De nulle part. Où allez-vous? Nulle part non plus. Bon, enfin, on est dans une sorte de symbolisme. Et que cette scène, elle est vraiment effroyable. Mmh. Hein, cette chauve-souris qui est peut-être un cadavre et qui cache des ossements, on ne sait pas. Ça m'a rappelé plusieurs choses. Je crois que c'est sur Les Amants. J'ai encore droit à 30 secondes.
Très sélectif.
Bah, je vous le fais très vite. Alors, L'âge d'or de Buñuel avec Les Amants qui se crèvent les yeux, comme Oedipe et Jocaste, en se demandant où est passé leur enfant qu'ils n'ont pas eu. Higelin et Brigitte Fontaine, cet enfant que je t'avais fait, où l'as-tu mis, qu'en as-tu fait? Et puis, le fait que, comme dit l'autre, quand on perd un parent, on perd aussi un enfant. En fait, et qu'ils sont en quelque sorte eux-mêmes des orphelins, ces deux vieux. Et pour terminer, dernière réminiscence, les parents à l'initiale de Seul dans Berlin de Hans Falada qui partent à l'aventure car leur fils est mort. Et là, on comprend bien, c'est le tour de génie de Ishiguro, qu'ils partent à l'aventure non pas parce qu'ils se rappellent qu'ils ont un fils, mais parce que leur rappel qu'ils ont un fils leur fait se ressouvenir qu'il est mort. Enfin, en tout cas symboliquement, c'est-à-dire qu'ils partent à la recherche de quelque chose qui n'existe pas, puisqu'ils ne se rappelaient pas, qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient un fils, et tout d'un coup, il se rappelle, non pas la présence évidemment, mais l'absence du fils. Et donc c'est aussi, et comme vous l'avez dit, voilà, merci mon amour, c'est l'histoire du couple aussi.
Elisabeth Franck Dumas, vous l'avez pas lu celui-là?
Non, celui-là je ne l'ai pas lu.
Ah bah mes notes sont pas bonnes alors, bah ça va, comme ça c'est très bien, on retombe dans
vous
les...
Vous voyez qu'on a le temps d'en dire plus.
Vous avez le droit à un mot. Jean-Jusco, parce que je me méfie de vous.
Je voudrais juste revenir généralement...
Je me réjouis de vous écouter hein, tous, autant que vous êtes. Hein.
Je voudrais juste ajouter un mot sur... parce que, encore une fois, j'aimerais que tout cela donne envie de lire Ishiguro en général. Ce livre est extrêmement symptomatique de son œuvre, notamment par ce thème de la mémoire, qui pourrait paraître une plate allégorie, alors que c'est tout le contraire concrètement. Vous savez, à l'époque des Vestiges du jour, Ishiguro disait « Nous sommes tous des majordomes ». À chaque fois, il fabrique une fable qui, par la particularité la plus extrême, atteint à une sorte de réalisme de la condition humaine. L'amnésie est ici, non pas l'idée de l'amnésie, non pas l'idée de se débarrasser de l'histoire, mais la réalité concrète de toutes nos vies qui ne se connaissent pas, de la destruction en fait de l'illusion de l'unité de la vie, qui est un des grands thèmes d'Ishiguro. Tous ces personnages fabriquent totalement artificiellement une vie dans leur esprit, croient vivre une vie, et chacun est détruit, voit détruit ces illusions. Ici, il part de ce principe. Ici, il va encore plus loin. Dès le début, il est impossible à ces personnages de savoir qu'ils ont une vie. Et c'est ce qui rend l'aventure passionnante, et je me tais.
Le géant enfoui de Kazuo Ishiguro, disponible en poche chez Folio, dans une traduction d'Anne Rabinovitch. Et dernière recommandation, et cette fois, je veux vraiment vers vous, Elisabeth Franck Dumas, puisque c'est la vôtre. À la lumière de ce que nous avons de Zia Eider Rahman, publié chez Christian Bourgois Éditeur, dans une traduction de Jacqueline Audin. C'est vraiment une respiration musicale, mais pour ce premier roman, cet auteur britannique d'origine bangladaise, sans plus attendre vu l'heure, Elisabeth Franck Dumas, vous ouvrez la dernière dispute de cette saison.
Oui, alors je vais tenter de faire vite, mais c'est un roman, alors vous l'avez dit, c'est 500 pages, c'est pas les 1000 pages.
C'est du grand format chez Christian Bourgois.
Mais quand même, il y a une ambition démentielle, surtout pour un premier roman. Alors il n'est pas dit l'âge de l'auteur, d'ailleurs je ne suis pas arrivée à le retrouver, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est une coquetterie, il cache son âge, mais je trouve qu'il y a une ambition absolument extraordinaire, revendiquée. Il y a même, il cite un moment dans le livre, une phrase de Calvino sur l'ambition nécessaire en littérature. Et il y a cette ambition qu'ont les gros romans anglais, plutôt façon George Eliot ou Dickens que Austen, d'embrasser le monde entier, de tenir un miroir au monde. Et ce livre-ci tient un miroir dans lequel refléter décrypter notre monde contemporain. Il embrasse tout ce qui traverse notre époque, les crises financières, les migrations, l'exil, le postcolonialisme, la disparition des nations. C'est un livre extrêmement dense. Il y a de longs développements scientifiques aussi, très érudits. Certains diront peut-être trop, mais je pense que justement la connaissance et le savoir, qui les a, qu'est-ce qu'on en fait, sont un des enjeux du livre. Livre qui croule sous son érudition et n'arrête pas de répéter que finalement on ne peut jamais vraiment connaître quoi que ce soit, ni savoir quoi que ce soit. Il y a ce paradoxe, cette ambiguïté qui est tissée tout au long de l'histoire d'un des personnages du livre. Il y a aussi une histoire d'amour sur fond de guerre de classe que je trouve là particulièrement bien rendue. Une histoire d'amitié. En lisant ce livre, on ne peut pas s'empêcher de se dire que vraiment ce dispositif déjà bien connu d'un narrateur un peu moins présent et d'un personnage ami dont il va raconter l'histoire, qu'on connaît déjà, est un formidable moteur narratif. Assez tard dans le livre, on parle de Nick Carraway et de Gatsby, mais je pense qu'on y pense même avant, parce qu'on se dit, tiens, je connais ça, pourquoi ça marche, parce que la figure du double et le dédoublement est quelque chose de très opérant dans ce livre-là. Alors, je vous ai raconté tout ça, mais je ne vous ai pas dit de quoi, enfin, ce qu'est l'intrigue, comment ça commence.
La question du double, elle est là, oui.
Un ami que le narrateur n'a pas vu depuis très longtemps se présente un jour chez lui à Londres, un peu en mauvais état, tout dépenaillé, en ayant quelque chose à raconter. Là aussi, ça rappelle d'autres textes. Il a quelque chose à raconter. Le narrateur, qui n'est pas forcément très sympathique d'ailleurs, lui-même pakistanais, petit-fils d'ambassadeur ayant fait ses études à Eton et à Oxford, racontera donc l'histoire de son ami Zafar, qu'il a rencontré à Oxford, qui vient d'un milieu très différent du sien. Il a grandi dans un petit village au Bangladesh et s'est hissé jusqu'à Oxford à la force de son intellect et de son poignet. Et c'est un personnage qui n'est plus là-bas, qui n'est pas vraiment ici non plus, qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, qui en souffle grandement, qui est marqué par une histoire familiale tragique, dont la détente, le payoff, comme on dirait en anglais, se fait attendre assez longtemps, mais parvient au terme du livre à prendre sa place. Un homme très cultivé, très brillant, qui a une passion pour les mathématiques, qui ont cette capacité d'aplanir le monde, les différences, les peuples, et qui ne va cesser justement de se heurter au réel. Un homme extrêmement érudit, dont on se sert des carnets pour écrire ce livre, et à qui finalement toutes ces théories, toute cette connaissance ne servira pas à grand chose face à cette rage qu'on sent monter, une rage grandissante et très bien vue sur le monde qui l'entoure, enfin vis-à-vis du monde qui l'entoure. Pardon, j'ai fait très vite.
Non, mais pardon, moi vous avez demandé cet exercice, j'avais envie d'être bien entouré, ce qui est le cas. Éric Loret, quelques mots sur ce livre ?
Moi, j'ai trouvé ça formidable jusqu'à la moitié à peu près, et après je me suis lassé sous l'effet du procédé. Bon, voilà tout ce qu'a dit Elisabeth. Franck Dumas, je souscris absolument. Pour moi, c'est le sujet, c'est comment est-ce que par un récit biographique, celui du personnage principal, Zafar, est-ce qu'on peut comprendre sa vie ? Donc, il y a effectivement cette histoire de double, de questionnement perpétuel de ce qu'on peut savoir, doit savoir, etc. Donc c'est extrêmement habile parce que, en effet, le sujet même du roman, c'est la façon de raconter le roman. Bon, ce qui est aussi d'une banalité, comme l'a dit Elisabeth, c'est pas le seul sujet de roman depuis le XVIIIe siècle dont le sujet est de savoir comment on raconte les romans, certes. Mais en tout cas, c'est effectivement brillant, il y a plein de trucs, il emprunte. Alors à un moment, je me dis, mais en fait, là, il est en train de nous faire un dialogue platonicien. Il y a tout un laïus sur les signes. Je me dis, ah, mais c'est Proust et les signes, en fait. Et au bout d'un moment, j'avoue que le procédé qui consiste à dire, tu sais qui était Eric Fromm, et ce qu'il a dit au sujet de l'amour, qui est Eric Fromm, un psychanalyste et philosophe germano-juif. Ah bon, et je vais te dire ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... c'est comme si ces cours de creative writing que visiblement il a eu avec mention super bien n'avaient pas été suffisants pour lui faire. C'est-à-dire qu'il connaît toutes les ficelles, mais après ça redonde un peu méchamment.
Vous avez trop vu de ficelles.
Voilà, mais non, franchement, c'est très très bien. Avec bon, une seule idée, enfin à mon sens, savoir quelle est la réalité des choses ne permet pas de les voir avec justesse, n'empêche pas de les voir d'une manière erronée. Donc c'est répété plusieurs fois sous
cas, on n'aurait pas
formes.
Compris.
Mais c'est non, c'est quand même très bien. Faut se laisser porter. Moi, je suis mauvais client et donc, mais si on se laisse faire, c'est vraiment royal. Quoi.
Est-ce que vous êtes laissé faire, Philippe Chevillier?
Alors moi, c'est un peu une joie, une souffrance, ce livre. Alors j'ai commencé par la souffrance parce que j'aime bien terminer. J'aime la joie. Sur la joue. Alors la souffrance, c'est qu'en fait, pareil, le côté un peu trop téléphoné de la forme érudite du renvoi, par exemple sur les mathématiques, sur chaque chose des cours de menuiserie, arrive finalement de façon pas très fluide. Et en plus, je trouve qu'il hésite un petit peu entre nous faire quelque chose d'extrêmement populaire, accessible, et puis quelque chose de plus érudit. Donc on est un peu entre deux eaux. La deuxième chose qui m'a gêné au départ, c'est que j'ai eu beaucoup de mal quand même à m'intéresser au personnage, au double de l'auteur, au triple même, puisque c'est un peu les deux à la fois. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal. Et puis même dans les personnages, parce que c'est drôle qu'on en parle, parce que justement, on parlait de misogynie. Oui. J'irai pas jusqu'à la misogynie, mais je trouve que les femmes n'existent pas beaucoup quand même dans ce livre.
Oui, c'est vrai.
La première, celle du narrateur, alors elle n'existe pas du tout. Oui. Et Émilie, c'est quand même un personnage difficile un peu à saisir, c'est le grand amour de sa vie. Mmh. À la fin, on se dit, mais pourquoi? Alors, il ne sait pas s'il l'aime vraiment et tout ça, mais bon, voilà, on passe un petit peu à côté. Et de ce personnage-là. Et puis, je trouve pas que l'écriture soit très belle, mais voilà, bah, voilà. Mais
alors, la joie.
elle vient de finalement qu'à force, c'est un petit peu. Alors, on revient à ces livres qu'on lit peut-être par bruit, mais là, on est obligé de le lire d'un seul coup. À force, il y a tout d'un coup une espèce de cette rage, effectivement, d'ambition, fait que ça commence à devenir touchant et on finit par être touché. Moi, je finis par être touché par le personnage. Et moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est à la fin que j'ai commencé à vraiment rentrer dans le livre. Et je trouve qu'il y a des très beaux passages. Alors, ça c'est pas à la fin, mais c'est le retour au Bangladesh, par exemple, qui est très court, mais qui est très beau. Et alors, j'ai trouvé assez génial la partie géopolitique, parce que là, quand il nous parle de l'Afghanistan, du Pakistan, et qu'on voit ces colonels du Pakistan, et qu'on comprend, finalement, personne ne comprend grand-chose dans cette histoire, qui est un jeu de rôle, et ce rapport, et cette rage qu'il y a contre les positions occidentales, soi-disant droits de l'homme, etc. Et je trouve que ces passages-là sont très forts, ils ne donnent aucune leçon. Et alors là, il y a un vrai propos de fond qui m'a beaucoup intéressé. Et puis bon, c'est une belle réflexion ébauchée sur la vérité de la vie, sur le libre arbitre et sur l'identité aussi, puisqu'en fait on revient aussi à ce problème de ce garçon qui est originaire du Bangladesh, les anciennes colonies, qui vit à Londres, qui est devenu en fait avocat, trader, etc. Et comment face à la société londonienne on arrive à avoir une place dans cette société. Après le Brexit, c'est intéressant de voir ça.
Les 30 dernières secondes pour
Elisabeth
Franck-Dumas.
Oui, je pense qu'il y a une dimension politique dans le livre aussi qui est très... Alors, on n'en a pas énormément parlé, mais que ce soit au plan macro ou micro, enfin, que ce soit l'action des États-Unis, des pays occidentaux dans des régions du sud-est asiatique, comme en Afghanistan, mais aussi au point micro, je dirais. Et ça, moi, j'y ai pensé sur cette histoire de Brexit. Quand il compare le discours des scientifiques et des savants, d'une manière générale, si peu assurés dans leurs propos, à ceux des hommes politiques, toujours extrêmement confiants et solennels. Enfin, je trouve que ça aussi, ça traverse le livre et c'est drôlement bien vu.
À la lumière de ce que nous savons, de Zia Eder Rahman, publié chez Christian Bourgois dans une traduction de Jacqueline Audin.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Dernière émission, dernier jeu de la dispute, et d'abord un retour sur le jeu d'hier au soir, Antoine Guillot.
Vous avez gagné des invitations pour assister à l'avant-première de Rester Vertical d'Alain Guiraudy dans le cadre de Le Louxor fait encore son festival de Cannes, c'est jusqu'au 12 juillet. Je vous avais demandé quel prix Rester Vertical avait reçu au festival de Cannes, et bien la réponse est aucun, et c'est navrant.
ce soir on fait gagner des DVD du spectacle mis en scène par Amos Guitta et La guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres, qui avait été présenté à Avignon en 2009 avec Jeanne Moreau et Eric Elmosnino, distribué par Épicentre Film. La question, Antoine:
de quel texte ce spectacle est-il l'adaptation?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir et la dispute pour cette saison. Remercier Elisabeth Franck-Dumas, Siam Boutata qui elle aussi va voguer vers d'autres horizons radiophoniques et que je remercie chaleureusement ici. On guettera et on annoncera ces documentaires sur cette antenne quand ils seront diffusés, quand ils seront prêts déjà. Je remercie Philippe Chevillier, Eric Loret, Florent Georgesco et Antoine Guillot d'y avoir pris part avec moi cette dernière dispute. La dispute était possible grâce à Siam Boutata, Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot et Virginie Ledu. Thibault. Prise de son assurée ce soir par Pierre Mine, réalisation Daniel Fineau. À partir de lundi, dans la grille d'été, vous pourrez écouter Culture Musique de 21h à 22h, du lundi au vendredi. Je vous donne rendez-vous le 29 août pour la saison 6 de La Dispute. Mais ce soir encore, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, hors champ, par Laura Adler. Elle aussi, on lui dit au revoir. Et à bientôt sur une autre antenne. Et puis dans quelques instants, le journal de la rédaction.